Chapitre 10. Bruno était fiancé. Monsieur et Madame Ferrière avaient fait la demande, accueillis par les Jarlier avec une satisfaction non dissimulée. Ce jeune homme charmant, de famille distinguée, bien pourvu des dons de la fortune et de l'esprit, appelé à un bel avenir littéraire, représentait un parti superbe pour des gens assez gênés dans leurs affaires. Chaque jour, Bruno dînait à la Hermelière. À son grand soulagement, car sa future famille ne lui plaisait pas davantage à mesure qu'il la connaissait mieux, Florian s'arrangeait toujours pour être seul avec lui en dehors des repas. Ils avaient de longues conversations sérieuses qui commençaient et se terminaient par des paroles d'amour. Chaque jour un peu plus, des liens subtils enlaçaient Bruno. En comprenant qu'il était aimé avec passion de cette femme séduisante, recherchée, admirée, en la voyant, elle, si intelligente, d'esprit si indépendant, qu'était tendrement son approbation et lui dire « Mon bien-aimé, je ne veux avoir d'autre pensée que la vôtre ». Son orgueil s'exalta et Florian, dès lors, eut mainmise souveraine sur son cœur. À peine, de temps à autre, quelques inquiétudes venaient-elles traverser sa joie enivrée. Le vieux curé, lui aussi, avait essayé de le raisonner, puis, voyant ses efforts inutiles, l'avait embrassé en disant avec un hochement de tête « mon petit, je crois que tu es en train de faire une sottise ». Henri de Marge avait parfois une façon de le regarder qui l'irritait parce qu'il croyait y découvrir une désapprobation émue. Mais chez sa mère surtout, il avait l'impression de quelque chose de nouveau, car elle était toujours aussi tendre et la clarté sereine de son regard demeurait la même. Cependant, Bruno savait qu'une ombre existait entre eux. Il ne cherchait pas à lui donner un nom, il en détournait très vite sa pensée. Comme Madame Ferrière, maintenant que le fait était accompli, ne lui parlait plus de ses inquiétudes, il se persuadait qu'elles avaient disparu et que sa mère rendait enfin justice aux sérieuses qualités de Florian. Il se réjouissait à cette idée, car tout en ayant passé outre l'opinion maternelle pour s'engager avec Mademoiselle Jarlier, il en avait écouté trop longtemps la voix pour ne pas y tenir fortement et souffrir d'être blâmé par elle. L'attitude de Florian à l'égard de sa future famille ne donnait prise à aucune critique. La jeune fille ne se montrait pas empressée ni affectueuse, mais restait invariablement d'une amabilité discrète qui faisait dire à Madame Ferrière « Elle paraît avoir un bienheureux caractère ». En tout cas, elle possédait un tact affiné, une rare souplesse d'esprit qui lui permettait de s'assimiler rapidement au milieu nouveau, de ne choquer jamais les opinions d'autrui tout en réservant les siennes, de se faire condescendante envers tous sans perdre un atome de sa volonté tenace, lente, irrésistible. Entre Madame Ferrière et elle, les rapports étaient corrects, sans effusion, sans rien qui annonçât de part et d'autre la sympathie. La mère dissimulait son inquiétude latente. Elle réprimait le tressaillement d'angoisse qui survenait chaque fois qu'elle se trouvait en présence de Florian, chaque fois surtout qu'elle voyait Bruno près d'elle, se grisant de son charme, s'enlisant dans la servitude que serait pour son cœur tendre et faible l'amour d'une femme telle que Florian. Elle disait à l'abbé Rivant « Je l'aurais cru plus fort. Maintenant, je me reproche de ne pas m'être défiée dès le premier moment. » Mais comment penser que mon Bruno, si sérieux jusque-là, se laisserait prendre ainsi ? L'abbé répondait « La rencontre de cette jeune fille a été pour lui la pierre de touche, ma pauvre tante, et vous ne pouviez rien empêcher. En admettant que vous ayez mis Bruno en garde contre elle, ce qui eût pu amener précisément le contraire de ce que vous cherchiez, Mademoiselle Jarlier, éprise de lui, aurait pu vraisemblablement s'arranger pour le revoir. » Et il est faible, orgueilleux aussi, hélas. Avec son charme et son intelligence, elle était faite pour le subjuguer. Mais je pensais que Bruno aurait eu égard à nos observations, à nos craintes, que sa conscience se ressaisirait devant la perspective de s'unir à une femme incroyante. Il n'en est rien, et c'est bien ce qui m'effraie le plus. La veille du mariage, au retour de la cérémonie civile, Madame Ferrière se trouva un instant seule avec Florian dans le petit salon où la jeune fille l'avait emmenée pour lui demander un renseignement. Le crépuscule commençait, la pièce devenait obscure. On distinguait cependant encore les roses et les hortensias blancs, les flots de tulle, les rubans brochés de la corbeille de fiançailles, quelques pièces d'argenterie, des écrins entr'ouverts, présents reçus tout à l'heure et qui n'avaient pas encore été rejoindre les autres dans la bibliothèque réservée à l'exposition des cadeaux. Au dehors, devant la porte ouverte, deux silhouettes passaient et repassaient. Louis et Marthe, mariés depuis un mois et qui revenaient de leur voyage de noces pour assister à la cérémonie du lendemain. « Ainsi, demain, Floriane, vous serez ma fille, » dit Madame Ferrière. Elle était toute proche de Mademoiselle Jarlier et posait sa main sur le bras dont la blancheur s'avivait dans la demi-obscurité. Sa voix avait des vibrations émues, un peu tremblantes. Elle pensait « Demain, cette étrangère qui n'a rien de nos croyances me prendra mon fils. Ils ne seront plus qu'un, et devant Dieu, rien ne pourra les désunir. » Floriane répondit tranquillement « Oui, madame, demain je serai la femme de Bruno. » Elle fit un léger mouvement. La main de Madame Ferrière glissa sur son bras. Après une courte pause, elle ajouta « Nous aurons enfin notre bonheur. Faites bien le sien, n'est-ce pas, mon enfant ? Car lui vous rendra heureuse, je le sais. Mais vous, Floriane, vous qui n'avez pas sa foi ?» Le regard de Madame Ferrière s'attachait au séduisant visage, aux yeux qui brillaient dans l'ombre. « Je ne l'en aimerai pas moins pour cela, madame. L'amour n'est pas tout. Bruno souffrirait de vous sentir, non pas même hostile, mais seulement indifférente à ses croyances. Je ne serai jamais indifférente à tout ce qu'il aime, à tout ce qu'il croit. » Bruno entra. Il demanda gaiement « Que complotez-vous là, toutes deux ?»« Nous parlions de vous, » dit Floriane. « Madame Ferrière me demandait de vous rendre heureux. »« Oh, chère maman, je le suis tellement déjà. Floriane n'a qu'à continuer pour faire de moi le plus fortuné des hommes. » Il s'approcha, embrassa Madame Ferrière. Sa physionomie rayonnait. « Je suis si contente de vous voir ensemble. Je voudrais tant, ma Floriane, que vous deveniez toute semblable à ma mère. » Floriane eut son rire bas et doux. D'un mouvement lent, souple, onduleux, elle se rapprocha de Bruno et glissa sa main sous le bras du jeune homme. « Toute semblable, c'est beaucoup demandé, très cher. Ne soyez pas trop exigeant. Je suis très imparfaite et je ne deviendrai jamais une sainte. M'aimerez-vous quand même, toujours ?» Il murmura « Mon amour, pourquoi cette question? Vous savez bien, voyons !» Dans le salon voisin, on fit soudain de la lumière. Celle-ci vint jusqu'à la petite pièce obscure. Les visages s'éclairèrent, les cheveux de Floriane reprirent leur teinte ardente. Son regard rencontra celui de Madame Ferrière et s'anima de cette même expression de défi triomphant qu'il avait eue naguère à Sainte-Cécile en se fixant sur la petite Vierge de bois. Un jour pluvieux assombrissait la vieille église, à l'heure où l'évêque d'Angers bénit l'union de Bruno Ferrière et de Floriane Jarlier. Les somptueux vitraux avaient des teintes tristes et les piliers paraissaient presque noirs. Les lumières de l'autel chassaient l'ombre du chœur et de la première travée, mais tout redevenait gris dans le bas de la nef et dans la profondeur des collatéraux où s'enfonçaient les chapelles désertes. La robe violette de l'évêque ramena un instant chez Bruno d'importants souvenirs. La dernière fois qu'il avait vu le pontife, c'était quelques mois auparavant, à une ordination. Il étendait les mains au-dessus des jeunes prêtres prosternés et Bruno avait pensé « Je voudrais être un de ceux-là ». Il eut un moment de malaise et ferma les yeux pour ne plus apercevoir cette bande violette qui dépassait la dentelle de l'aube. Puis il les rouvrit pour regarder Floriane. Elle était agenouillée et tenait les yeux fixés sur son missel. Lisait-elle, priait-elle, quelle pensée se cachait sous ce front blanc? Elle l'aimait, il en était sûr. Mais pourquoi le bonheur causé par cette certitude se mêlait-il parfois d'une sorte d'anxiété? L'indifférence religieuse de Floriane l'attristait, certes, mais il savait que peu à peu il la vaincrait. Elle lui avait dit « Je me mettrai à votre école ». Et bien souvent, au cours de leur fiançailles, il lui avait parlé de sa foi ou rappelé ce qu'elle avait appris en son enfance, très vite oublié près de parents incroyants. Elle l'écoutait attentivement et, quand il s'arrêtait, elle disait avec une tendresse souriante « Je ne me lasserai jamais de vous entendre, mon Bruno !» Mais oui, il la convertirait très vite. Dès lors, que signifiait cette inquiétude indéfinissable? Car cette question religieuse était le seul point noir entre Florian et lui, puisque, par ailleurs, la jeune fille se révélait comme possédant toutes les sérieuses qualités indispensables et qu'ils s'aimaient tous deux. Sur son prie-Dieu, Madame Ferrière inclinait la tête entre ses mains qui se glaçaient. Elle aussi évoquait une autre cérémonie que celle-ci, Bruno prêtre recevant l'imposition des mains de ce même évêque venu aujourd'hui pour son mariage. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle pensa « Il était trop faible !» et les larmes coulèrent sur ses doigts, sur la dentelle de sa robe. Bruno et Floriane se levaient et s'approchaient de la grille du chœur. Autour de la jeune mariée, le satin souple frissonna avec un doux éclat de perles et la dentelle du voile s'écarta, laissant voir un instant l'or roux de ses cheveux. Ils s'agenouillèrent l'un près de l'autre. Madame Ferrière tendit avidement l'oreille pour entendre les mots définitifs. Quand ce fut fait, elle appuya ses mains sur sa poitrine en un geste d'effroi tranquille et elle pria, sans larmes, en frissonnant un peu. «